France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, honneur à l'accordéon avec son jeune et sympathique porte-parole Félicien Brut, aux frontières de la chanson populaire et de la musique classique, du bal musette et de la création contemporaine. Il évoquera son parcours d'Auvergne à Paris, son admiration pour Gus Wieser et son disque intitulé Le Paris des bretelles. Félicien Brut à ce micro dans quelques minutes. En fin d'émission, un petit point sur les opérettes de l'été. Mais d'abord, salut au vieil ami Zappy Max qui vient de nous quitter après 97 ans de service.
Gardé dans son comptoir,
le percepteur l'a conservé dans son tiroir.
La fleur si belle, le espoir.
Le pharmacien la dorlotait dans un bocal.
L'ex-caporal en parlait à l'ex-général.
Car c'était elle, notre idéal. C'est une fleur de Paris, du vieux Paris.
Ses couleurs,
bleu, blanc, rouge.
Avec l'espoir elle a fleuri.
C'est une fleur
de Paris.
C'est une fleur de chez nous. Elle a fleuri de partout.
Car c'est la fleur du retour, du retour des beaux jours.
Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs.
Et oui, Zappy Max, c'était donc son nom de fantaisiste. Son vrai nom, c'était Max Doucet. J'avais eu la joie de le recevoir plusieurs fois dans cette émission. Pensez à 95 ans, il venait encore en autobus à la maison de la radio. Il était devenu célèbre dès la fin de la guerre avec cette chanson qu'on vient d'entendre, Fleur de Paris, l'orchestre de Jacques Elian et les voix donc de Zappy Max, Francine Aubré et Jo Charrier. Et puis, il était devenu encore plus célèbre au cours des années suivantes comme animateur radiophonique sur Radio Luxembourg, où il avait des émissions extrêmement populaires comme « Vas-y Zappy »,« Ça va bouillir »,« C'est parti mon Zappy » ou encore « Le crochet radiophonique ». Vous savez où s'essayaient tous les apprentis chanteurs, le crochet radiophonique du Radio Circus, parce qu'à l'époque c'était un cirque radiophonique qui se baladait à travers toute la France. Et je vous propose de retrouver juste pour l'ambiance justement quelques minutes d'une de ces émissions enregistrées en septembre 1950.
Et voici Zappy Max. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Et vous aussi, chers amis auditeurs, bonsoir. Nous voici comme chaque lundi sous le chapiteau du Radio Circus et vous allez pouvoir juger à votre tour les concurrents que chaque soir nous sélectionnons pour vous. Mais auparavant, selon la tradition, tous en chœur, avec Charlet Bazin, Camille Martins et votre serviteur, la chanson du Radio Circus, Mamselle Lotus.
Ah, quelle est belle la file de feriste, la file de feriste du Radio Circus. Oui, c'est vraiment une très grande artiste, la file de feriste du Radio Circus.
Zappy Max et le Radio Circus en 1950 avec l'accordéon de Charlet Bazin. Il y avait toujours un accordéon à l'époque, on en parlera sûrement tout à l'heure avec mon invité Félicien Brut. En tout cas, voilà, salut à Zappy Max, 2019, il vient de nous quitter à l'âge de 97 ans. Et vous pourrez retrouver d'ailleurs sur le site de France Musique en tapant Zappy Max, Étonnez-moi Benoît, eh bien au moins une des émissions qu'on avait enregistrées ensemble. Et je crois qu'à la rentrée, notre ami Martin Péné lui consacrera encore un programme spécial. La merveilleuse danse slave, opus 72, numéro 2 d'Anton Dvorak, par l'Orchestre Symphonique de Minneapolis, sous la direction d'Antal Dorati. C'est un enregistrement de 1958.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Dvorak, c'est d'ailleurs un compositeur qui illustre merveilleusement les liens entre la musique populaire, la musique classique, la création telle qu'elle se pensait à son époque. Et ces liens, eh bien, ils passionnent également mon invité qui porte depuis quelque temps très brillamment la parole de l'accordéon en essayant de conjuguer tous les genres propres à cet instrument. J'ai le plaisir de recevoir ce matin Félicien Brut. La suite musette de Thibaut Perrine, un extrait du mouvement final par Félicien Brut à l'accordéon avec le quatuor Hermès, Édouard Macarez à la contrebasse. Bonjour Félicien.
Et bonjour Benoît.
Merci d'être avec nous ce matin. Merci. C'est formidable ce morceau. Alors je pense que les amateurs d'accordéon qui écoutent pas mal cette émission ont reconnu par exemple le thème des triolets qui est un standard.
Ah oui, s'il est bien un standard à l'accordéon, c'est sans
l'accordéon
doute
populaire. Triolets, hein, voilà.
Une polka écrite par Émile Vacher qui était un peu le père du musette, enfin en tout cas le premier accordéoniste un peu star du
ce
mouvement
genre,
musette.
Voilà, dans les années déjà 1920, il était très présent.
Absolument,
à Paris.
C'est ça.
Et alors là, voilà, c'est Thibaut Perrine, le compositeur, qui s'empare de ce thème, qui le revisite librement, mais quand même en gardant l'esprit musette. Ça s'appelle Suite musette. Et voilà, c'est le fruit d'une rencontre entre vous, accordéoniste, et un compositeur, on peut dire. Ce
oui,
morceau.
C'est ça. C'est parti d'une idée un peu théorique que m'a donné Richard Galliano en discutant. On parlait du musette, de mes premières amours, parce que moi j'ai vraiment démarré la musique par le musette et j'adorais ça. Et ensuite j'ai bifurqué vers la musique classique, et du coup Richard me disait ça serait très bien de réussir à réunir ces deux univers. Et donc j'ai rencontré ce jeune compositeur Thibaut, qui a un peu le parcours inverse du mien. En fait, moi je viens de la musique populaire et je suis allé de plus en plus vers la musique classique, et lui c'est exactement l'inverse. C'est vraiment quelqu'un qui vient du sérail classique,
ouais,
et qui a un peu découvert la musique populaire en commençant à travailler avec des compagnies comme les Brigands sur des opérettes.
Il a fait beaucoup d'opérettes,
au théâtre du Châtelet,
enfin,
etc.
Réorchestré des opérettes.
Il a réarrangé, réorchestré des partitions comme ça d'opérettes. Et du coup, on s'est rencontrés un peu au bon moment. Il avait envie de commencer la composition. Et puis, c'est la commande que je lui ai passée l'a un peu surpris, puis un peu déclenché finalement, parce que j'avais une idée très précise. Je voulais donc une suite comme ça de plusieurs mouvements qui évoquent les danses musettes, mais dans lequel on utilise des thèmes en fait de ce répertoire. Et pour ça, il y a eu un gros travail aussi à faire avec une maison d'édition qui s'appelle Becher Arpège et qui nous a beaucoup soutenus, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le répertoire est protégé encore.
Voilà, c'est un répertoire qui est protégé du point de vue des droits, qui appartient principalement à la fameuse maison Becher
qui était l'éditeur historique du répertoire.
Qui était d'ailleurs à deux pas de la rue de Lappe où étaient les bals musettes de l'époque.
Absolument, à l'époque. Et c'est toujours une maison très très dynamique dans le répertoire pour accordéon et pour chanson. Et donc, ils m'ont beaucoup aidé. Et il se trouve qu'on a dû obtenir les accords des ayants droit de ces thèmes-là pour qu'on puisse les réutiliser dans cette
En tout cas, c'est incroyable parce que Thibaut Perrine, qui effectivement est un compositeur dont on pourrait imaginer qu'il s'intéresse à des univers un peu plus classiques, là, tout d'un coup, est tellement pris par l'accordéon qu'il en est à son deuxième concerto pour vous, je crois.
Alors, il a écrit cette première suite pour quintette à cordes et accordéon. Ensuite, il a écrit une première pièce pour orchestre et accordéon. Et là, un concerto qu'on a créé au mois d'avril. Voilà, effectivement, donc il écrit beaucoup pour accordéon.
Il aime vraiment l'accordéon.
Je crois qu'il s'est converti.
Et ben voilà, moi, vous n'avez pas besoin de me convertir. Félicien Brut, je suis très heureux que vous soyez là ce matin. On va évoquer un peu ce que c'est que ce parcours qui est le vôtre et qui remet l'accordéon à l'honneur dans la vie musicale. Et on va commencer par remonter un peu dans vos toutes jeunes années. Je crois que quand Dalida nous a quittés, c'était justement l'année de votre naissance.
Je sais que le monde est une question, je sais que la guerre est une invention et que la terre roule comme un ballon sous des hommes au cœur plein d'ambition. Que tourne, tourne la roue.
Dalida, l'accordéon, ça sent la France. On n'y peut rien, Félicien Brut. Cet instrument est associé à notre pays, alors même qu'il n'est pas originaire de France. Vous voyez un film américain, n'importe quoi, une scène qui se passe à Paris. En France, il y a tout de suite un fond d'accordéon. C'est quand même extraordinaire,
c'est
non?
C'est quand même extraordinaire. Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire. Mais alors, extraordinaire pour deux choses. D'abord, quand on se balade, quand on est accordéoniste et qu'on se balade un peu sur la planète, c'est une grande chance parce que être accordéoniste et être français, c'est un atout.
C'est alors, certain. Même qu'il y a des écoles d'accordéon dans tous les pays, par ailleurs.
Partout, on joue de l'accordéon très bien dans beaucoup de pays dans le monde. Il y a eu et puis bon, et surtout ce qu'il faut comprendre, c'est que l'accordéon a été inventé par un Autrichien. Il est fabriqué depuis toujours en Italie. Si un pays a vraiment compté dans le développement de l'accordéon classique, c'est la Russie. Aujourd'hui, il y a des écoles d'accordéon absolument incroyables en Asie, que ce soit en Chine ou au Japon. Et le continent sur lequel on joue le plus de cet instrument, c'est l'Amérique latine. Donc en fait, il a pas grand-chose de français plus que d'italien ou plus que d'autrichien. Mais le musette et la chanson française ont fait de cet instrument quelque chose de tout à fait symbolique et de la France et de Paris. Et
ça
c'est
passe
une
par
chance.
Piaf aussi, sans doute, et toute une école de la chanson.
Oui, bien sûr, il y a Piaf et puis il y a Brel et puis il y a tout ça. Mais je crois que c'est aussi une leçon à retenir parce qu'aujourd'hui, on se pose beaucoup la question de qu'est-ce que la culture française, de qu'est-ce que la culture européenne. Et puis, on a parfois peur d'être submergé par des gens qui viendraient d'ailleurs et qui, comme ça, pourraient un peu faire que notre culture soit diluée. Et en fait, l'idée même, enfin le parcours de l'accordéon et du musette, aujourd'hui certains en font quelque chose de très franco-français, alors que c'est justement quelque chose qui est arrivé le biais de vagues d'immigration, par le biais d'échanges multiculturels complètement inédits, et je trouve que c'est passionnant.
Et néanmoins, l'accordéon en France a quand même un certain nombre de bastions, à commencer par l'Auvergne, où vous avez grandi, Félicien Brut.
J'ai grandi.
C'est le pays de l'accordéon, à l'origine. À tel point même que le mot musette est venu plus tard pour baptiser un genre qui était aussi bien italien ou manouche qu'auvergnien. Mais enfin, voilà, c'est quand même l'Auvergne, c'est un des pays de l'accordéon.
Disons qu'en Auvergne, il y a du fromage et de l'accordéon et du rugby. Voilà. Mais il y a plusieurs régions, il y a le Nord et aussi. Mais c'est vrai que l'accordéon est très implanté en Auvergne. Alors c'est l'Auvergne un peu large, vous savez. Alors l'Auvergne, c'est un territoire
aussi,
un peu bizarre. Voilà. C'est-à-dire que la Corrèze, l'Ardèche, l'Aveyron, c'est toujours l'Auvergne. Par contre, l'Allier, qui est en fait, administrativement, normalement en Auvergne, il se considère pas trop comme des Auvergnats. Voilà. Mais c'est l'Auvergne au sens un peu symbolique du terme, qui est une terre d'accordéon. Et c'est d'ailleurs les Auvergnats qui sont les pères du musette, puisque c'est eux qui vont arriver à Paris au début du XXe siècle avec des petites cornemuses qu'on appelle les musettes et qui vont commencer à faire danser les Parisiens.
Mais vous-même, de votre génération, puisque je l'ai dit, vous êtes né un petit peu avant la mort de Dalida, en fait, en 1986. Je veux dire, l'accordéon en Auvergne, ça ne représentait plus rien en 1986, non?
Ah non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ah, non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Ah, bon? Non, il y avait encore beaucoup d'accordéons en Auvergne en 1986. Mais il y en a toujours aujourd'hui. Mais non, il y avait des bals tous les week-ends. Moi, mes parents m'emmenaient au bal musette.
Ah oui, vraiment?
Ah oui, vraiment, dans toutes les fêtes de village, etc., il n'y avait pas de... Aujourd'hui, même en Auvergne, les DJ ont remplacé les orchestres de bal musette, mais à l'époque, il y avait des orchestres, alors je peux en citer quelques-uns, il y avait Fernand Reynaud, par exemple, qui est un accordéoniste très célèbre, qui portait le même nom que le...
Ah bon,
Un autre Fernand Reynaud, qui jouait beaucoup, Jean-Pierre Coustet, et puis on recevait, bien entendu, les Louis Corchia, André Verschuren, Yvette Horner, etc., faire des bals très régulièrement.
Et d'ailleurs, c'est là-bas aussi où il y a des écoles d'accordéon. Donc vous avez commencé vraiment votre formation.
Alors, il y a une école assez incroyable qui a été inventée par Jacques Mornet. En fait, Jacques Mornet, c'est quelqu'un qui enseigne l'accordéon depuis très longtemps. Il était directeur de l'école départementale de musique du Thor dans le Vaucluse. Et à la retraite, il a ouvert une école spécialisée dans l'enseignement de l'accordéon en Auvergne.
On l'avait reçu au Salon Musicora d'ailleurs.
Oui, oui. Et voilà, et il est assez étonnant. Il a su comme ça créer une école où il reçoit à la fois les accordéonistes français mais aussi étrangers qui sont là en internat toute l'année. Voilà, ils travaillent l'accordéon toute la journée au Vert, puisque c'est dans un village de 1000 habitants, là où j'habite. Et donc moi, j'ai pris des cours avec lui pendant 12 ans. En fait, c'est lui qui m'a tout appris et je lui dois beaucoup.
Et puisque vous évoquiez le bal musette, alors écoutez, je me fais plaisir. Hein, c'était un maître pour moi, quelqu'un que j'ai connu et quelqu'un qui savait pas seulement bien jouer, mais aussi bien faire danser. C'était Joe Privat. We'll be right back. Joe Priva, sa préférée. Moi, c'est aussi une de mes préférées. Félicien Rut.
C'est magnifique.
Ça tourne, hein.
Oui, ça tourne. Et puis, il avait à la fois un sens de, alors, ce que les gens, souvent, dans le musette, appellent la cadence. Vous voyez,
voilà, c'est ça.
Un rythme comme ça, très régulier, et que les danseurs apprécient, bien entendu.
Voilà, et en même temps avec une tournure dans les mélodies, ce côté un petit peu mineur, tziganisant.
Complètement
comme ça,
mineur très... et complètement tzigane, il avait vraiment cette âme-là, cette âme manouche, c'était un musicien incroyable. Il a joué aussi avec tous les grands musiciens manouches de son époque. Et puis, c'est devenu un... Hein. Alors, je ne sais pas si les auditeurs ont déjà entendu les interviews de Joe Priva, mais alors, si vous ne connaissez pas ça, il faut absolument aller voir quelques vidéos sur YouTube ou Dailymotion, là, pour regarder les vidéos de Joe Priva, qui sont toujours extrêmement savoureuses, parce qu'il parlait l'argot parisien, il a une gouaille absolument géniale.
Et ces grands maîtres du swing musette, évidemment, ils ont disparu pour la plupart avant que vous n'entriez vraiment dans le métier, mais vous fréquentez, par exemple, de temps en temps, le fils de Joe Priva, Joe Priva Junior.
On a eu beaucoup de chance, d'ailleurs, il a accepté de nous accorder les droits d'une pièce de son papa, qui s'appelle Balajo, qui est une de ses valses célèbres, qui a donc été utilisé dans la création de Cipo Perrine. Et puis il est venu nous écouter en concert pour le concert de création à la scène musicale. Et c'était d'ailleurs une image très, enfin moi, qui m'a beaucoup touché, parce que je me souviens qu'il était assis au troisième rang, je le voyais très bien, Joe Priva Junior, et à côté il y avait le Xavier Delette, qui est le directeur du
conservatoire de
Paris. Et je me disais que c'était assez touchant comme ça de pouvoir avoir ces deux mondes, finalement le monde de l'enseignement très classique et très académique qui côtoie le temps d'une soirée.
Ce sont ces ponts-là qui vous intéressent, Félicien Brut. Et il faut dire que vous avez vraiment aussi, jeune musicien en Auvergne, vraiment fait du bal. Hein.
Ah, j'ai fait du bal musette très longtemps. J'ai arrêté le musette il n'y a pas très longtemps. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais 23 ans quand j'ai fait mes derniers bals. Mais de 12 ans à 23 ans, j'ai fait du bal musette et j'ai adoré ça.
Alors, c'était
vraiment
le week-end dans des villages, dans des villes.
Oui, d'abord, je suis rentré, j'avais le premier orchestre où je suis rentré vraiment, je devais avoir 14 ans. Un orchestre qui s'appelait Les Copains. Un orchestre de Thiers dans le Puy-de-Dôme. Et puis ensuite, j'ai travaillé moi avec mes musiciens un peu plus tard, à l'âge de 20 ans. Et donc oui, on animait alors ça peut être des fêtes de village, des banquets de pompiers, de sociétés de foot, de gendarmerie.
Vraiment,
le bal en Auvergne, c'était encore très implanté, dans le sud de la France aussi. Et puis les fêtes votives, beaucoup dans le sud, l'été,
dans
etc.
Le Gard.
Oui, voilà, donc on faisait ça et j'adorais ça, vraiment, je trouvais ça très touchant.
Mais on peut dire, Félicien Brut, qu'il y a au fond peut-être deux écoles de l'accordéon. Il y a celle dont vous venez de parler, celle du bal, et puis il y a l'école classique, alors qui peut-être surprend un peu plus le mélomane classique qui écoute France Musique, mais c'est vrai que on joue aussi beaucoup, et beaucoup de jeunes accordéonistes travaillent alors tout le répertoire, Bach, Chopin, etc., classique, absolument, à l'accordéon. C'est l'autre filière, on peut
absolument
dire.
Absolument, et depuis très longtemps, parce qu'on est toujours étonné de dire, ah, on peut faire du classique à l'accordéon, puis on parlait, justement, pour préparer cette émission, on parlait d'une émission à l'ORTF, où Freddy Balta a été reçu, et il jouait une transcription de la toccata et fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach. Et voilà, donc c'était ça dans la fin des années 50. Donc depuis très longtemps, on joue du classique à l'accordéon. Après, pourquoi j'aime créer des ponts, parce que quand même, sur les dernières décennies, ce qu'on peut observer dans le milieu de l'accordéon, c'est une forme de scission, un peu, entre ceux qui ont continué à faire de la musique populaire, qui ont continué à faire du musette.
C'est ça.
Et les autres qui ont fait soit du classique, soit parfois du jazz.
C'est deux mondes un peu hermétiques.
Oui, voilà, ouais, c'est ça. Il y a quand même une cassure. Et je trouve que certains accordéonistes ont réussi à surpasser ça. C'est le cas de Marcel Azola, qu'on écoutait tout à l'heure dans la chanson de Dalida.
Ça tombe bien, parce qu'on va le réécouter dans un instant.
Et c'était incroyable, parce que, vous savez, bon, il est décédé il y a quelques mois maintenant. Et à ses obsèques, au mois de janvier, tout à côté de Paris, il y avait des gens justement qui venaient de tous les milieux. Il y avait Max Bonnet, qui est l'enseignant du CNSM de Paris, et son assistant, mais il y avait aussi Franck Villain, qui fait du bal dans le nord de la France, et il y avait des gens qui font de la chanson, il y avait Lionel Suarez qui fait du jazz, Marcel, c'est vraiment quelqu'un qui
rassemblait
a
tout
comme ça, voilà,
rassemblé
vraiment
toute la famille. Carrière extraordinaire.
Oui, et puis il a joué toutes les musiques. Et toujours avec beaucoup de talent et beaucoup de générosité. Donc.
Et ces dernières années, il aimait beaucoup se produire avec sa grande amie Lina Bossati, elle au piano, lui à l'accordéon.
Incroyable, Lina. Incroyable. Oui. Si elle nous écoute, on lui passe un bonjour. Oui, parce que moi, je l'adore vraiment. C'est quelqu'un elle est merveilleuse. Elle a une énergie, un groove, un swing absolument incroyable.
Et là, on va voir justement comment ils peuvent partir du classique, alors de Jean-Sébastien Bach, pour aller tout à fait ailleurs. Ça s'appelle Take Back.
Absolument.
Thank you.
Marcel Azola et Lina Bossati dans Take Back. Voilà, une très jolie composition de ces deux grands artistes. Salut à Marcel, dont on avait fêté les 90 ans ici en direct sur France Musique. Et pour parler d'accordéon, je reçois aujourd'hui le jeune Félicien Brut, et néanmoins très doux. On a dû vous la faire souvent, Félicien Brut.
Oui, Félicie aussi.
Voilà, qui admire lui aussi, vient de nous le dire, évidemment, Marcel Azola, un de ceux qui ont ouvert la voie de la rencontre des styles. Et puis, il y a quand même quelqu'un d'autre qui est essentiel, évidemment, pour votre génération, c'est effectivement Richard Galliano, Félicien Brut.
Ah oui, complètement. Mais d'ailleurs...
Vous avez déjà dit comment c'est lui qui vous avait tout à l'heure un petit peu poussé à ces projets, Richard, avec Thibaut Périne, mais on peut dire que lui-même a amorcé ses rencontres des gens en s'intéressant tellement, par exemple, à la musique d'Amérique latine.
Il a même fait beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que Richard, en une carrière qui n'est pas finie d'ailleurs, et qui est incroyable, parce que Richard, c'est quelqu'un qui fait toujours 250 concerts par an et qui navigue partout dans le monde, et avec une passion
aussi
et une générosité, qui compose. C'est quelqu'un qui n'arrête jamais, absolument jamais. Et c'est surtout lui qui, dans la lignée de Gus Wieser, de Freddy Balta, de Marcel Azola, etc., bien sûr, il a réussi ce tour de force incroyable qui est d'implanter l'accordéon au plus haut niveau, à la fois dans la chanson, en accompagnant Nougaro, en accompagnant Barbara, puis ensuite dans le milieu du jazz, en se faisant connaître, respecter et inviter comme un des plus grands jazzman un peu partout dans le monde, et ensuite dans le milieu de la musique classique. Ça a été vrai à partir de son album sur Bach, qui est sorti chez Deutsche Grammophon. Ça a été le premier accordéoniste à être publié chez une grande maison comme Deutsche Grammophon. Et il a fait un bien fou, c'est-à-dire que ce qu'on fait aujourd'hui, on le doit tous autant qu'on est à Richard Galliano, qui a ouvert les portes.
Et d'ailleurs, à l'honneur, il faut le dire, dans votre disque Le Paris des Bretelles, avec sa composition Petite Suite Française.
Oui, que j'adore, qui est une composition incroyable. Je trouve que Richard est un compositeur incroyable. J'aimerais d'ailleurs qu'il écrive encore plus que ce qu'il écrit déjà pour l'accordéon, parce que c'est magnifique. Et puis c'est pareil, c'est un artiste qui sur scène, et moi je crois que il m'a profondément donné envie de jouer de cet instrument. Je l'ai vu en concert, j'étais assez jeune la première fois, et ensuite je l'ai revu très souvent, et on s'est rencontrés finalement assez tard, il y a 4 ou 5 ans, j'ai dû le rencontrer vraiment, et on a pu discuter ensemble, mais je l'avais vu des tas de fois en concert, et c'est quelqu'un qui déborde de générosité avec les gens, et qui a un rapport au public et à la musique à la fois extrêmement simple et en même temps complètement entier, et c'est extrêmement beau.
Alors Félicien Brut, vous nous faites plaisir parce que vous êtes venu avec votre accordéon. C'est pas fréquent dans les directs du samedi matin qu'on fasse de la musique live, comme on dit en bon français. Mais il se trouve qu'en plus, vous étiez déjà à la maison de la radio
J'étais hier soir ici.
Vous avez d'ailleurs laissé votre accordéon.
C'est ça qu'on n'arrivait pas à récupérer, qui était coincé dans une...
Et là, il est bien là devant nous. Vous nous en parlerez tout à l'heure de votre accordéon, mais vous allez nous jouer justement une petite composition de Richard Galliano.
Oui, une petite valse que je vais peut-être enchaîner avec une valse de Tony Moore. Thank you.
Merci Félicien Brut. Je suis tout seul pour vous applaudir mais dans le studio. Mais chez les auditeurs sont sûrement nombreux à le faire aussi chez eux. C'était donc... alors d'abord, Fou Rire. Hein,
de Richard Galliano.
De oui, Richard Galliano. Et puis tout de suite après, vous avez enchaîné subtilement.
Avec Indifférence, parce que c'est
voilà,
une demande du...
Voilà, grand tube du Musette de Tony Murena.
Oui, voilà, et c'est une demande de... Vous savez, hier soir, donc, je jouais ici, Studio 104, pour la fête de la musique. Et Marc Voinchet m'a dit, qui est donc le directeur de cette station, m'a dit qu'il aimait beaucoup Indifférence et qu'il regrettait que je ne l'ai pas joué hier soir. Alors je lui ai dit, je le jouerai demain matin chez Benoît Dutour.
Voilà, mais c'est vrai que c'est un thème admirable que Indifférence. Merci de nous l'avoir si bien joué. Sur votre accordéon, avec combien de boutons de chaque côté on peut,
pour les néophytes? Il y a 120 boutons à la main gauche et je crois 100... Je ne sais pas, je ne les ai jamais comptés à droite, mais ce n'est pas la première fois qu'on me pose la question. 104 ou 106 boutons, je crois, à droite.
Ah oui, c'est
et
ça.
Mais c'est pas si compliqué en fait. Voilà, je crois que le plus compliqué à l'accordéon, ce sont pas les boutons. Alors bien entendu, il faut essayer de taper les bons. Et vous avez vu, parfois, je tape pas les bons.
Ah bon, je me suis pas bien.
Mais non, ce qui est compliqué, je crois, c'est. Mais c'est comme pour tout instrument, c'est de faire passer une émotion, un
bien
message,
sûr.
Un phrasé, un legato, voilà, une articulation. Et ça, c'est vraiment compliqué.
Alors combien de boutons? Donc vous nous l'avez dit, combien de jeux?
Alors combien j'ai de jeux? Alors j'ai 4 voix différentes en main droite et donc après il peut y avoir des combinaisons différentes, donc au total il doit y en avoir une quinzaine je pense de jeux. Et en main gauche j'ai 3 jeux possibles aussi. Donc voilà, c'est un peu comme à l'orgue, il y a différentes voix et voilà, on peut mixer ces différentes voix les unes avec les autres.
Voilà. Et dernière précision quand même pour les néophytes, c'est toujours bien de le rappeler, c'est un accordéon disons français, si j'ose dire, mais donc de tradition italienne, comme on joue en France, c'est-à-dire avec des boutons des deux côtés,
oui.
Contrairement à toute une autre famille d'accordéons qu'on appelle des accordéons piano. Ou
oui, alors il y a
un clavier de piano.
En fait, le fait qu'il y ait un clavier piano ou un clavier bouton ne change pas grand-chose. Tout ça, c'est quand même de l'accordéon
chromatique.
Pour le
mouvement des mains, quand même. C'est
très différent. Alors bien sûr. Après, ça, c'est un choix de l'accordéoniste. Oui. Et il faut savoir que nous, en France, on connaît beaucoup l'accordéon bouton, mais dans le monde, en fait, on joue plus d'accordéon touche piano que d'accordéon touche bouton.
Voilà.
En fait.
Alors qu'en France, c'est ce modèle d'origine italienne.
Oui,
qui s'est imposé.
Modèle italien, oui, mais qui s'est imposé assez rapidement. En fait, on joue l'accordéon de italien en France depuis très longtemps, en fait, puisque c'est les Italiens qui ont amené l'accordéon chez nous. En fait.
Voilà. Alors, on sait aussi, Félicien Brut, que l'accordéon en France a connu des heures parfois difficiles, surtout dans les années 60-70, avec l'arrivée des yéyés, de la pop, qui ont amené une autre musique populaire et un peu balayé comme ça cette tradition. Néanmoins, et ça c'est quelque chose d'important pour vous dans tout ce qui vous intéresse dans cette musique, c'est que il a beaucoup survécu à travers la chanson justement, hein. Que ce soit Edith Piaf, que ce soit Barbara, que ce soit des gens comme Jos Baselli, Marcella Zola, Romanelli, etc.
Absolument.
Il y a vraiment une survie de l'accordéon à travers la chanson.
Oui, non seulement il y a une survie, et puis il y a même une survie de la chanson et du musette, parce que je me souviens, moi, quand j'ai commencé l'accordéon il y a donc 30 ans, presque, on me disait, bon, alors, il y avait toujours un côté, il y avait toujours ce côté ringard, etc. Et c'est vrai que l'accordéon, le musette, ça a été ringard.
Ouais.
Ça l'est peut-être encore un peu, je crois que c'est en train de changer parce que les gens, on en écoute plus, enfin moins en tout cas, les jeunes connaissent moins ça, ont moins été baignés par ça aujourd'hui, donc ils le redécouvrent avec un certain plaisir. Mais je me dis que, en voyant ce qui se passe aujourd'hui dans le monde culturel, dans le monde y compris de la variété, etc., je me dis que finalement le fait de devenir ringard, c'est presque une bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même des gens qui maintenant et des modes qui passent un peu comme des comètes, ça dure 1 an, 2 ans, et puis on n'entend plus jamais parler. Bon, et finalement je me dis le musette a été inventé il y a 1 siècle, il est toujours présent, et puis les gens entretiennent quand même un rapport avec l'accordéon qui est souvent même s'ils aiment pas cet instrument comme ça a priori, ou s'ils ont des a priori sur lui, ils ont toujours de la tendresse pour lui. C'est toujours l'instrument qui est associé un peu aux fêtes de village, aux fêtes de famille, à des moments plutôt heureux, au mariage de sa tata ou de sa belle-sœur. Ou de... Voilà, donc il y a quelque chose comme ça qui est assez... assez touchant, je trouve. Et la chanson a été un vecteur absolument incroyable. Je pense que c'est un instrument qui a servi la chanson... admirablement bien depuis longtemps. Moi, je suis un passionné de chansons françaises. J'adore ça depuis toujours. J'ai écouté de la chanson française bien avant d'écouter de la musique classique.
On trouve des liens d'ailleurs, par exemple, avec l'opérette. Par exemple, vous me citiez un de la Canebière, l'opérette marseillaise, qui est devenu un tube, un standard de l'accordéon.
C'est devenu un standard du musette. Voilà,
notre
canne. Ça, c'est devenu une marche vraiment hyper célèbre en musette.
Ou encore Froufrou, la chanson créée dans une revue en 1897. oui. Qui est devenu un autre standard du bal musette.
Aussi, en fait, le musette s'est beaucoup inspiré comme ça, a beaucoup puisé dans le répertoire de la chanson, dans le répertoire traditionnel de musique du monde, en fait, dans des pasodobles, par exemple, typiques de l'Espagne, etc. Et aussi dans ce répertoire d'opérettes et de revues. Alors, c'est vrai, ça a été vrai ensuite de La Complainte de la Butte, par exemple, qui est une valse qu'on a beaucoup repris en musette. C'est vrai de Froufrou. Tout ça, c'est devenu vraiment des tubes. Tout à l'heure, on écoutait Fleur de Paris, début de l'émission, quand je suis arrivé. Fleur de Paris, c'est par exemple un standard du bal musette.
Standard du bal musette. Bien sûr. Alors, Froufrou, écoutez. Alors, du coup, je l'ai réécouté parce que vous me l'aviez signalé, chanté par Bert Silva. Et les paroles sont quand même en plus assez extraordinaires.
Je trouve.
C'est pas très dans le ton de l'époque, hein.
Non.
On est loin de la théorie.
T'es très
genre.
En avance.
Mais écoutez attentivement Bert Silva dans Froufrou.
Porte quelquefois la culotte dans son ménage. Le fait est constaté, je crois, dans les liens du mariage. Mais quand elle va pédalant en culotte comme un zouave, la chose me semble plus grave. Et je me dis en la voyant, froufrou, froufrou, par son jupon la femme, froufrou, froufrou, de l'homme trouble l'homme, froufrou, froufrou, certainement la femme séduit surtout par son gentil froufrou. La femme ayant l'air d'un garçon ne fut jamais très attrayante. C'est le froufrou de son jupon qui la rend surtout excitante. Lorsque l'homme entend ce froufrou, c'est étonnant tout ce qu'il ose. Soudain il voit la vie en rose, il s'électrise et devient fou. Froufrou, froufrou, par son jupon la femme, froufrou, froufrou, de l'homme trouble l'homme, froufrou, froufrou, certainement la femme séduit surtout par son gentil froufrou. En culotte, me direz-vous, on est bien mieux à bicyclette. Mais moi je dis que sans froufrou, une femme n'est pas complète. Lorsqu'on la voit se retrousser, son cotillon vous ensorcelle. Son froufrou c'est comme un bruit d'aile qui passe et vient vous caresser. Froufrou, froufrou, par son jupon la femme, froufrou, froufrou, de l'homme trouble l'homme, froufrou, froufrou, certainement la femme séduit surtout par son gentil froufrou.
Voilà, sans froufrou, une femme n'est pas complète, hein, comme le chante Bert Silva dans cette chanson devenue un tube du bal musette et choisie par Félicien Brut, que je suis heureux de recevoir ce matin ici même pour parler, de tout ce qu'il fait pour l'honneur de l'accordéon.
Je suis patient de toujours faire honneur à l'accordéon, je fais ce que je peux.
En tout cas, récemment, ce disque intitulé Le Paris des bretelles, alors lié, vous nous l'avez dit, à votre rencontre avec le compositeur Thibaut Perrine, qui a signé une des compositions, mais aussi les arrangements de ce disque. Et voilà, justement, là, vous avez choisi... on sait que l'accordéon, par exemple, musette, généralement, c'est une guitare ou deux, un accordéon et une basse, parfois une clarinette ou quelque chose en plus. Vous avez opté pour une formation, justement, à la couleur beaucoup plus classique, avec le quatuor Hermès, plus une contrebasse, et votre accordéon.
La volonté, c'était vraiment de faire de ce disque une sorte de rencontre entre le musette et le classique.
Et le classique, donc entre les deux couleurs,
c'est
justement.
Ça. Donc, il se trouve que le Quatuor à cordes, c'est peut-être la formation la plus classique qui soit. Et j'ai eu la chance de rencontrer assez vite le Quatuor Hermès, qui sont des musiciens brillants et puis surtout des gens adorables que j'aime particulièrement. Et puis Edouard Macarez, qui travaille dans cette belle maison, puisqu'il est soliste à l'Orchestre Philharmonique de Radio France, et qui est à la contrebasse. Et oui, c'est, la volonté n'a jamais été de revenir à une formation en fait musette. Alors d'ailleurs, la première formation musette, c'est assez drôle, c'était souvent une basse avant. Alors soit un tuba, soit un trombone, puisque c'était pas sonorisé à l'époque, il y avait pas vraiment tout au début. Et c'était pour faire l'harmonie, on prenait pas une guitare, mais on prenait un banjo parce que c'était
absolument
plus sonore.
Voilà. Premier, puis, presque à l'époque d'Émile Vacher.
Oui, c'est ça. Émile Vacher, c'était ça. Souvent un quartet comme ça avec accordéon, basse avant, banjo et caisse claire, tout simplement pour faire danser. Et donc, enfin, pour en revenir au disque, oui, la volonté c'était vraiment de mélanger le musette et la musique classique, et du coup de le faire par le biais de nos formations, aussi du répertoire, puisqu'on joue des arrangements de Prokofiev ou Gershwin, il y en a la création de Thibaut Perrine qui rend hommage aux musettes, et puis il y a aussi des pièces de Richard Galliano, une pièce de d'Astor Piazzolla, une pièce de Gus Wieser. Donc voilà, c'était pour essayer comme ça de montrer que finalement il n'y avait pas de cloison, si ce n'est celle de cloison stylistique, si ce n'est celle qu'on se met nous-mêmes, effectivement, dans notre esprit.
Alors, on va écouter justement comment vous revisitez un des grands morceaux du genre, la flambée montalbanaise de Gus Wieser. Petite question, tiens, vous venez de jouer Tony Murena, Indifférence. Alors, voilà, je dirais, éternelle question quand on s'intéresse à ce répertoire, c'est qui le plus grand ? C'est Murena ou c'est Wieser ?
Je peux pas répondre à cette question parce que je trouve que c'est indécent de répondre à cette question. En fait, c'était des gens que j'admire profondément, qui jouaient extrêmement bien de leur instrument.
Pour cette finesse,
peut-être que je peux dire que je suis encore plus touché par le jeu de Wieser, vraiment. Ouais. Et en même temps, je trouve que les compositions de Murena sont au moins aussi incroyable que celle de Gus Wieser. Donc, j'ai pas de préféré.
Les deux.
Voilà, les deux, mon capitaine. Jusque-là, tout va bien.
Et votre flambée montalbanaise, avant de l'écouter, faut en dire un mot?
Bah, que dire? Gus Wieser, c'est vraiment un des premiers accordéonistes à avoir été comme ça très influencé par l'arrivée du jazz, du swing, et à avoir écrit des valses swing absolument incroyables. Et ensuite, donc, Tony Murena va lui emboîter le pas. Cette flambée, c'est devenu un tube absolument énorme. Et ça a été repris entre autres par André Mainvielle, que j'adore, qui a mis les paroles dessus, comme Indifférence d'ailleurs de Tony Murena. Et que dire rien du tout, que c'est la piste du disque réellement musette. Voilà, s'il y a bien une valse musette sur ce disque, c'est celle-ci.
Thank you.
très belle version de la flambée montalbanaise, composition de Gus Wieser, donc par Félicien Brut avec le quatuor Hermès, Édouard Macarès, des arrangements de Thibaut Perrine, qui est votre compositeur fétiche.
Absolument.
Félicien Brut. Et vous ne renoncez pas à l'idée de travailler avec d'autres compositeurs.
Non, on est en train de réfléchir à ça d'ailleurs. En ce moment même, j'en ai rencontré plusieurs. Et non, on se dit avec Thibaut, l'un et l'autre, qu'il faut qu'on ouvre justement ce cercle. Et même, je réfléchis aussi à peut-être... Ah, c'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais j'aimerais beaucoup créer un prix de composition pour accordéon.
Alors, il faut dire qu'il y a quand même toute une école de musique alors contemporaine, j'ai envie de dire pure et dure, où l'accordéon est assez en bonne place, notamment dans les pays de l'Est.
Oui, c'est vrai. Sur des pièces pour accordéon solo,
ouais.
C'est complètement vrai. C'est moins vrai sur du répertoire de musique de chambre, et je crois que c'est ce qui manque. Oui, je trouve que ça manque à notre instrument de manière assez criante. Alors, il y a quelques œuvres, mais quand on est accordéoniste et qu'on veut faire la musique de chambre, bon, ben, au départ, on joue Piazzolla. Voilà. Qui est de la musique extraordinaire, magnifique. Et puis, aussi, parfois, on peut avoir envie de jouer un peu autre chose, et ça n'enlève rien à la musique de Piazzolla. Mais c'est pour ça qu'on a besoin de nouveaux répertoires, de nouvelles transcriptions, de nouveaux arrangements. Et donc, si des compositeurs sont à l'écoute de France Musique ce matin, je les incite fortement à écrire pour accordéon.
Vous touchez parfois au bandoneon, à l'accordéon diatonique, à toutes ces...
Non, je touche à peu près rien d'autre. Je sais faire que ça, moi, jouer de
que l'accordéon
chromatique dans ma vie. Mais c'est vrai, je joue pas de bandoneon, ni l'accordéon diatonique.
Alors, en tout cas, votre chromatique, vous l'avez à nouveau sur les genoux, et c'est pour notre plus grand plaisir ce matin à France Musique qu'on va donner un petit coup de chapeau à mon cher Michel Legrand, qui est venu souvent dans cette émission, qui est aimait l'accordéon à tel point qu'il l'a utilisé à l'époque où il faisait beaucoup d'arrangements. Je crois qu'il travaillait beaucoup avec Jos Baselier. Mmh. Et vous avez vous-même alors fait votre petite variation sur les parapluies de...
Ah non, c'est pas moi. C'est toute la magie d'ailleurs de l'accordéon. C'est un compositeur russe qui s'appelle Yevgeny Derbyanko qui a écrit cette variation sur les parapluies de Cherbourg, puisque c'est un thème très connu alors dans le monde entier, mais en particulier en Russie, thème qu'ils adorent. Et je trouve
aussi grand pays de l'accordéon, comme vous le disiez
absolument
tout à l'heure.
Et il en a donc fait un arrangement pour accordéon solo.
Thank you.
Les parapluies de Cherbourg. Merci, on est deux dans le studio à faire la claque, mais parce qu'il y a plein d'auditeurs qui font la même. Écoutez, voilà ce que m'écrit une auditrice, chère Félicien Brut. Elle vous écrit d'ailleurs. Je ne résiste pas à profiter de votre passage dans cette très bonne émission. Merci, madame, pour vous écrire toute ma sincère admiration. J'aimais l'accordéon, mais sans plus. Et l'été dernier, je vais écouter un concert dans l'église de Saint-Plantaire, donné par des profs du conservatoire de Châteauroux avec un accordéoniste, Félicien Brut. Et là, un ravissement, l'accordéon. C'était non seulement la musette, mais aussi la musique. Vous voyez ?
Bon, ben c'est gentil, merci beaucoup.
Les conversions se multiplient grâce à vous, à ce bel instrument qu'on défend ici depuis toujours. Et vos projets, donc Félicien Brut, je le disais, ne manquent pas. Alors Thibaut Perrine, évidemment, le Paris des Bretelles, j'imagine que ça continue. D'ailleurs, j'aimerais bien entendre ces concertos pour accordéon. J'espère qu'on aura l'occasion de les entendre en concert.
Avec pour vous. Plaisir. Écoutez, j'ai joué. On a fait la création au mois d'avril avec Cannes. Je vais rejouer avec orchestre. On va rejouer une pièce de Thibaut au mois d'août au Blanc-Mesnil. Pour,
et vous enregistrerez peut-être également.
J'espère aussi. Donc ça, on y réfléchit. Puis on réfléchit aussi à faire évoluer le programme du Paris des Bretelles pour l'an prochain. Voilà.
Mais vous avez d'autres projets, par exemple, avec un musicien que vous aimez beaucoup. Et je voudrais qu'on l'écoute un instant, parce que j'ai été très séduit aussi, qui s'appelle Thibaut Garcia, qui est un guitariste.
Ouais, je suis complètement fan de Thibaut Garcia depuis très longtemps. Et alors, pour la petite histoire, ce qui est assez drôle, c'est que, vous savez, moi, j'ai enseigné au conservatoire de Châteauroux, donc d'abord au conservatoire de Libourne, en Gironde.
Et puis, on vient de parler, justement.
Voilà, c'est ça. Et ensuite, au conservatoire de Châteauroux, c'est pour ça que cette dame m'a vu là-bas. Et j'ai arrêté l'enseignement il y a 2 ans. Et il se trouve qu'il y avait un festival de musique classique, le festival Debussy à Argenton-sur-Creuse, et j'allais donner la main aux bénévoles l'été pendant ce festival, et j'ai rencontré Thibaut Garcia au départ en le véhiculant comme chauffeur, puisque je faisais le chauffeur dans ce festival. C'est un guitariste absolument incroyable, et on s'entend très bien, et on a décidé de travailler donc sur un programme en duo pour mêler justement l'accordéon et la guitare, qui sont des instruments alors différents à bien des égards, parce que la guitare est bien entendu beaucoup plus ancienne, beaucoup plus installée, a beaucoup plus de répertoire.
Puis on la connaît plus comme rythmique de l'accordéon,
bien
pour
sûr,
le coup, dans la musique
mais
populaire.
On connaît assez peu la guitare classique, comme on connaît assez peu finalement l'accordéon de concert. Et puis surtout, ce sont des instruments qui ont parcouru le monde d'une manière assez indécente. C'est des instruments nomades, ça a toujours été les instruments des gitans, parce que ce sont des instruments polyphoniques, transportables. Qui,
des instruments pour amateurs aussi.
Des instruments des marins, etc. Donc je suis très content, on va faire ce duo accordéon et guitare. Je trouve que c'est deux instruments qui se marient merveilleusement bien. Et Thibaut est un guitariste juste incroyable. Et si on l'écoute, je suis très heureux. Thank you.
Un petit mot peut-être, Félicien Brou, de ce merveilleux morceau, La Cathédrale.
Bah, je suis complètement tombé amoureux de cette pièce il y a quelques années déjà. C'est donc une pièce écrite par Barrios Mongoré, qui est un compositeur, je crois, brésilien. Et c'est une pièce en trois mouvements. Là, on a écouté le troisième mouvement, donc joué par Thibaut Garcia. C'est dans son dernier disque, qui est un disque consacré à Bach. Et aux compositeurs qui ont été inspirés par Jean-Sébastien Bach, et le disque s'ouvre sur cette pièce qui est absolument magique, et on retrouve un peu le côté justement, vous voyez, un peu hybride de la guitare, comme il y a le côté hybride de l'accordéon, c'est-à-dire que c'est des instruments qu'on a du mal à classer. Pas des instruments classiques, mais en même temps c'est pas non plus que des instruments populaires, et je trouve que c'est ce qui fait leur caractéristique et tout leur intérêt peut-être.
Alors maintenant, c'est lourd un accordéon. Je m'en suis aperçu l'autre jour avec Daniel Collin au 20 ans de l'émission.
C'est très lourd.
Daniel qui est pas très grand, c'est un instrument énorme. Hein. Oui. C'est pas toujours facile à trimballer, à mettre, à accrocher, à
c'est
retirer.
Pénible.
Vous allez partir là, parce que je vois le nombre de dates que vous avez jusqu'à la fin du mois de juillet.
Par exemple, en juillet, c'est un peu chargé. Je crois que j'ai 19
concerts.
Voilà,
vous êtes le Globetrotter avec votre voiture et votre
semaines.
Accordéon.
Oui, c'est ça. On a des rendez-vous plutôt chouettes. On sera au musical de Cambrai tout début juillet. Puis aux Nuits de Fourvière ensuite, le premier week-end. Je suis très content de jouer aux Nuits de Fourvière. C'est une première date à Lyon avec le Paris des Bretelles, et vu dans le cadre de ce beau festival. Et puis ensuite, on part en Russie pour les Folles Journées d'Ekaterinbourg. Et ensuite, je serai au Festival de Radio France à Montpellier, en duo avec Clarinette. Et puis, on terminera le mois de juillet avec le Festival de Bussy, les concerts de Vaulor en Auvergne aussi, il me semble. Voilà, enfin, il y a un beau programme bien chargé. Je suis très heureux de l'été qui se profile.
Voilà, bah merci en tout cas d'avoir été avec nous. L'accordéon, aujourd'hui, vous œuvrez pour ça avec quelques autres, mais on peut dire qu'en France, il se renouvelle bien, il se porte bien, il y a un terreau, il y a une jeune génération, il y a toujours des écoles d'accordéon un peu partout.
Il y a énormément
qui fournissent
d'écoles
des talents, si j'ose dire, ou qui en découvrent.
Et puis je crois que la meilleure nouvelle, c'est que l'accordéon rentre aussi dans les cursus de conservatoire, maintenant dans des écoles de musique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'ai pris des cours dans cette école en Auvergne qui est merveilleuse, et en même temps, avec peut-être le petit regret que je pouvais avoir, c'est de ne fréquenter que des accordéonistes, et je trouve aussi que c'est intéressant que l'accordéon se dépasse lui-même et aille au contact d'autres musiciens, et le fait qu'il y ait des classes qui s'ouvrent dans les conservatoires, etc., ça c'est une nouvelle magnifique, et donc j'incite les conservatoires et les directeurs de conservatoires qui n'ont pas de classe d'accordéon à penser à en ouvrir, parce que c'est souvent des classes qui ont du succès.
C'est l'esprit de la musique de chambre, et c'est exactement ce que vous faites, Félicien Brut, avec Paris des Bretelles, cette rencontre justement du quatuor et de l'accordéon. On va se quitter justement avec un extrait de ce disque, et c'est la musique d'un Américain à Paris, de Gershwin, arrangé à nouveau par Thibaut Perrine.
Hein. Oui, arrangé par Thibaut Perrine, qui raconte donc l'arrivée des Américains, qui raconte aussi l'ambiance parisienne un peu des années folles. Et alors c'est parti d'une blague, c'est Anthony Condo, qui est donc le violoncelliste du Quatuor Hermès. Ouais. On cherchait une pièce, et il me dit, une pièce symphonique à réduire pour notre ensemble, et il me dit, il y a un Américain à Paris, tu sais, les klaxons, je pense que ça sonnerait bien à l'accordéon. Voilà, puisqu'on entend les klaxons.
Truc d'orchestration vous réinventez dans cette pièce. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Félicien
Benoît.
Brut,
merci,
et j'espère
beaucoup
qu'on se revoit bientôt.
Merci. Thank you.
Un Américain à Paris, la composition de Gershwin, revisitée donc à l'accordéon par Félicien Brut, qui était mon invité ce matin. Vous pouvez évidemment écouter son disque Le Paris des Bretelles, qui est sorti chez Mirare. Et puis vous pouvez également retrouver Félicien déjà très bientôt, les 5 et 7 juillet prochains, à Cambrai et à Fourvière, et également donc au Festival de Radio France et de Montpellier, où il sera du 19 au 21 juillet. C'est All Loft, une composition de George Gershwin encore. Voilà, on prolonge après Un Américain à Paris. Mais j'adore cette chanson interprétée par les Three Songies avec Red Nichols et son orchestre. Un enregistrement de 1937.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Voilà, et puis alors j'ai beaucoup de choses à vous annoncer. D'abord, on va se retrouver cet été, le samedi à 17h pour quelques rediffusions d'Étonnez-moi Benoît, des anciennes émissions avec des invités merveilleux comme Zizi Jeanmaire, Jacques Janssen, Pierre Tchernia et encore beaucoup d'autres. Je vous en redonnerai peut-être le détail tout à l'heure, mais je voudrais d'abord m'arrêter aussi au festival cet été qui donneront une place à l'opérette et en particulier à Offenbach. Il faut bien le dire, cette année ce sont les 200 ans de la naissance d'Offenbach et il est à l'honneur d'abord à Aix-les-Bains, traditionnel festival d'opérette qui s'ouvrira le 6-7 juillet avec notamment Mesdames de la Halle d'Offenbach, ensuite à Bruniquel, excellent festival de mon ami Jean-Christophe Keck qui présentera un des chefs-d'œuvre d'Offenbach qu'on joue trop rarement, c'est La Princesse de Trébizonde, et puis à Étretat où d'ailleurs je serai moi-même au début du mois d'août où se déroule traditionnellement le festival Offenbach avec cette année un portrait en musique concocté par Yves Coudray qui vous racontera toute l'œuvre d'Offenbach avec des tubes et des morceaux moins connus. Voilà au moins 3 rendez-vous à ne pas rater cet été. Et je vous ai dit donc que La Princesse de Trébizonde, c'est un des grands opéras bouffe d'Offenbach qu'on joue moins malheureusement que Les Brigands, La Vie parisienne, La Péricole et les autres. Pourtant, il le mériterait tout autant. J'ai retenu pour vous, chanté par Aimé Donia, cet air très offenbachien puisqu'il nous fait un grand air d'opéra, mais simplement pour nous raconter qu'il a mal aux dents.
soudaine. Et quel est ce nouveau détour? Mon fils, la chose est certaine, s'apprête à me jouer un tour.
Oh, oh.
Il a mal aux dents.
Oh, oh.
Il a mal aux dents.
Oh, oh. Oh, oh. J'ai mal aux dents. Ah, à sa mélance. Ah, j'ai mal aux dents. À quel tourment, quelle souffrance. J'ai mal aux dents, ah, à sa mélance. Ah, si je l'osais, de rage je mordrais, de rage je mordrais. Ah, quel triste état, papa, ça me bat, papa, papa, ça me bat. C'est trop souffrir, est-il d'un élixir pour me guérir? Ah, rien n'est égal à ce mal infernal. Rien n'est égal à ce mal infernal. J'ai mal aux dents, ah, ça m'agace. Ah, j'ai mal aux dents, ah, je ne puis aller en chasse. Ah, j'ai mal aux dents, ah, ça m'agace. Ah, je ne veux pas du dentiste, en tout cas, ne le demande pas. Il faudrait tâcher de guérir sans arracher. C'est trop souffrir, est-il de l'élixir pour me guérir? Rien n'est égal à ce mal infernal.
La princesse de Trébizonde d'Offenbach qui sera donc à l'affiche à Bruniquel du 25 juillet au 4 août parmi tous ces hommages à Offenbach. Malheureusement pour le reste de l'opérette il n'y a pas grand chose et chaque année même je dirais que ça diminue, c'est un peu triste. Mais honneur quand même au résistant festival de la Malou-les-Bains qui a pris quelques autres risques en programmant notamment Pas sur la bouche de Maurice Yvain.
À propos mon cher Faradel,
oui,
vous ne m'avez pas dit où percher votre garçonnière.
C'est facile à trouver. Sur le quai de Malaquais, au 23, vous entrez tout droit. À gauche, vous faites demi-tour, c'est la porte au fond de la cour. Il n'y a pas d'erreur à côté de celle de l'encadreur.
Sur le quai de Malaquais, et par là, il ne passe pas un choix. Sauf les académiciens, mais ça ne vous gêne en rien. Ce sont plus donnés et personne ne les connaît.
Ah, Gilberte! En battant le pavé, j'ai trouvé, pour nous deux le petit émoi rêvé. Demain de 5 à 7, c'est très net, c'est très net. On se donnera des baisers fous, je vais vous dire où. Sur le quai Malaquais, au 23, vous entrez tout droit. À gauche, vous faites demi-tour, c'est la porte au fond de la cour. Il n'y a pas d'erreur à côté de celle de l'encadreur.
Sur le quai Malaquais, et par là, il ne passe pas un chat. Sauf les académiciens, mais c'est le même que je viens. Ce sont des données, et personne ne les connaît.
Oh, Valandré, je viens d'avoir les clés, c'est réglé, d'un joli petit appartement meublé. C'est beaucoup mieux que l'hôtel, y a rien de tel, y a rien de tel.
Donnez-moi l'adresse vivement, votre appartement.
Sur le quai Malaquais, au 23, vous entrez tout droit. À gauche, vous faites demi-tour, c'est la porte au fond de la cour. Il n'y a pas d'erreur à côté de celle de l'encadreur.
Sur le quai, 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 sur le quai,
sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le
quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur
le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le quai, sur le
quai, sur la bouche de Maurice Yvain par toute la troupe de Radio Lyrique en 1966, une opérette que vous pourrez donc retrouver le 21 août prochain au Festival d'opérette de Lamalou-les-Bains. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier. Aujourd'hui à la technique Alexandre Billard avec Jean-Paul Lafavergès, réalisation Christine Amado. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, ce sera la dernière émission de la saison en compagnie de Dominique Besnéard et Serge Elaïd. D'ici là, bon week-end à tous sur France Musique. Vous avez rendez-vous maintenant avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.